L'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant. Mais je crois que même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne réalise pas toujours quel amour Dieu a pour nous. Alors, vous deviez certainement vous douter que j'allais vous parler de Pâques. Et je crois qu'il y a des... Comment je vais dire? Des thèmes sur lesquels on devrait revenir régulièrement. Et quand je préparais ça, je réfléchissais, je me disais, mais il y a la Pâque qui est la chose la plus importante pour nous. S'il n'y avait pas eu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on ne serait pas là. Je ne vous connaîtrais pas. Certains oui, mais d'autres non. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait au travers du fait de nous avoir sauvés, de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs en Christ. Mais il y a d'autres thèmes qui sont pour moi importants et sur lesquels on devrait revenir plus souvent, peut-être. Je discutais au niveau de la préparation au baptême lundi et on parlait de la sanctification et quelqu'un disait, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, la sanctification dans l'Église. C'est vrai qu'il y a des thèmes comme ça où parfois on se laisse aller dans la vie, à vivre des choses et puis à en oublier d'autres, comme le pardon, comme la repentance. Il y a vraiment des thèmes, je crois, sur lesquels on devrait revenir peut-être plus régulièrement. Mais aussi, pas des thèmes qui nous écrasent, mais des thèmes qui nous amènent à réaliser qui est Dieu et quels bénéfices nous pouvons tirer de cette relation que nous avons avec lui et de cette alliance qu'il a établie avec nous. Hier, on est allé à un mariage et le prédicateur parlait justement de cette alliance. Dieu a fait une alliance avec chacun d'entre nous qui est éternelle. Vous ne pourrez pas vous défaire de cette alliance, sauf si vous-même, vous ne voulez plus de cette alliance. Mais quoi que vous fassiez, Dieu vous aimera toujours. Et ça, en tant qu'être humain, c'est parfois un peu difficile à saisir, parce que nous, en tant qu'être humain, souvent, on aime pour ou parce que Dieu nous aime. Point. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Il est amour. Et il t'aime parce qu'il t'aime. Quelle grandeur, quelle majesté Dieu a pour chacun d'entre nous. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est tous nous élever à un niveau bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Pas être élevé pour écraser, mais être élevé dans la gloire de Dieu pour témoigner de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu. Donc ce matin, je vais vous parler de la Pâque. Alors pourquoi j'ai mis Pâque avec et sans S? Apparemment, Pâque sans S, c'est au niveau juif. Et Pâque avec un S, c'est au niveau chrétien. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est pas tous les ans comme ça. C'est aujourd'hui qu'on fête la Pâque juive, qu'on fête la Pâque chrétienne, et m'a-t-on dit que l'on fête la Pâque orthodoxe. Donc, est-ce que Dieu a prévu quelque chose de particulier au niveau du fait de réunir ses enfants? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que Dieu étant Dieu, il peut faire au-delà de ce que je pense. Alors évidemment, quand on parle de la Pâque, on parle de la crucifixion. Alors je pensais que c'était assez grand et je me rends compte que je vais devoir faire des caractères encore plus grands pour la prochaine fois, donc il y aura plus de slides. Mais bon, j'aimerais qu'on prenne le temps de lire, parce que je crois que vous me connaissez un peu, enfin ceux qui me connaissent, c'est que j'aime bien appuyer les choses sur la parole de Dieu. Parce que en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas grand-chose pour moi. Je crois que la parole de Dieu est tellement importante. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. La parole de Dieu qui nous délivre. La parole de Dieu qui nous guérit. La parole de Dieu qui opère des miracles dans nos vies. La parole de Dieu qui nous soutient. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et que Jésus est tout ça, et bien au-delà. Donc dans Jean 19, 17 à 42. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ce que Dieu fait va bien au-delà de ce que nous pouvons penser et l'ennemi pourra faire tout ce qu'il voudra et l'homme pourra faire tout ce qu'il voudra. Il ne pourra pas contrecarrer les plans de Dieu. Et Dieu utilise Pilate pour dire « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus est le roi des Juifs et il est le roi des rois. Le roi de toute la terre, de tout l'univers. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. La parole de Dieu qui avait été annoncée des siècles auparavant s'accomplissait. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, est accompli. Jésus avait accompli toute la parole de Dieu. Rien n'a été mis au hasard, rien n'a été fait au hasard. Jésus a tout accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Je crois que c'est le seul être sur la terre. Il y a un autre passage qui dit, Père, où Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et puis il meurt. Je crois qu'aucun être humain, à part Jésus, peut faire ça. Il y a des personnes qui souffrent sur cette terre, il y en a qui sont en maladie longue et qui voudraient tellement mourir. Mais Jésus, ayant tout accompli, donne son esprit à Dieu et meurt. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en rend témoignage, en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Prophétie qui a aussi été donnée des siècles avant, en parlant de Jésus. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Et donc, le psaume 34-21 dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant est allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres, plus de 3 kilos d'aromates et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. La parole de Dieu qui est vivante et efficace et qui accomplit ce que Dieu a déclaré depuis toujours. Aujourd'hui, nous sommes troublés dans les temps que nous sommes en train de vivre. Je fais peut-être une parenthèse, mais ne savez-vous pas que ce que nous vivons est écrit dans la parole de Dieu? Alors, scripturairement, c'est peut-être pas écrit. Tout n'est pas écrit. Mais les temps que nous vivons sont des temps difficiles dans lesquels nous entrons. La parole de Dieu nous en a avertis. Et parfois, en tant que chrétien, on veut se protéger de tout ce qui se passe. Et je pense qu'alors que dans ces temps que nous vivons, ce que Dieu veut faire, c'est lever ses enfants de manière à ce qu'ils puissent témoigner de qui est Dieu. Et de ne pas se focaliser sur les difficultés de la vie d'aujourd'hui. Puisque nous savons que ça va arriver. Et si vous ne le savez pas, je vous encourage à lire la parole, à lire Matthieu 24, qui nous donne vraiment un texte où il nous parle de ce qui va arriver à la fin des temps. Et Bruno rappelait récemment que dans ce texte, Dieu nous parle beaucoup de l'Église et du fait de ne pas être divisé, de chercher l'unité. Et c'est vrai qu'en lisant ce texte, souvent on dit, on regarde aux malheurs qui vont arriver plutôt que regarder l'ensemble de la parole de Dieu et se ressaisir en disant, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que si on vous apporte des messages dimanche après dimanche et que ça n'impacte pas vos vies, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que quand nous entendons des messages, c'est vraiment de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Dans quoi est-ce que Dieu veut me faire rentrer? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et je peux vous dire que si vous vous posez cette question de dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Vous aurez moins de temps à vous occuper des choses de ce monde, mais de chercher à être la fille ou le fils que Dieu veut que vous soyez. Et c'est-à-dire d'être un témoin puissant de l'amour et de la grâce de Dieu. Focalisons-nous sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Et en fait, la Pâque, c'est ça aussi. Ça nous parle indirectement de ça. Si Jésus est mort, c'est quand même pas pour rien, Alors, en tant que chrétien, on connaît le contexte. Et je pense que ce matin, en tout cas, je prie que le Saint-Esprit vous touche dans votre esprit pour que vous compreniez de manière à aller plus loin avec lui. De ne pas rester sur nos acquis, mais de pouvoir sortir peut-être de notre zone de confort afin d'entrer dans ses projets. Et si nous sommes dans ses projets, Dieu nous accompagne et Dieu se glorifie. Évidemment, s'il y a eu la mort, c'est quand même beaucoup plus, alors pas important parce qu'il fallait l'un et l'autre, mais c'est réjouissant. Oui. La mort, ça amène la mort, c'est vide, c'est. Mais par contre, la résurrection. Et Dieu veut ressusciter aujourd'hui dans nos vies, encore. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Mais il veut amener la résurrection et la vie, dans nos corps. Jean 20, 1 à 14. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé la pierre du sépulcre. » Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, pardon. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Je pense que Dieu veut nous toucher ce matin afin que nous croyions. Le nombre de fois où Jésus a repris ses disciples par rapport à l'incrédulité. Et je pense qu'on peut se mettre devant Dieu et être honnête et dire « Seigneur, dans ce domaine-là, j'ai de l'incrédulité. » Quelqu'un disait récemment « Est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir ?» Et si je vous pose la question « Est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir ?» La plupart d'entre vous, vous allez dire oui. Et est-ce que tu crois que Dieu te guérit maintenant? On a tendance à faire un pas en arrière parce que on sait que Dieu peut guérir et on sait qu'il est puissant pour le faire. Mais quand ça nous concerne, souvent c'est plus compliqué. Parce que là, on commence à avoir de l'incrédulité. Mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu veut me guérir vraiment aujourd'hui? Et donc, nous sommes parfois un frein à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et je ne le dis pas en tant qu'accusation, mais pour comprendre que parfois on attend de Dieu et en même temps, on est tellement incrédule par rapport à ce que Dieu veut faire. Pas à ce qu'il peut faire, parce que ça, je crois que la majorité des chrétiens savent que Dieu peut le faire. Mais est-ce que Dieu veut le faire pour moi? Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, se tenant dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc. assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et je pense que parfois, Jésus est à côté de nous, mais on ne sait pas que Jésus est là. Parce que nous avons malheureusement parfois une image préconçue de qui est Dieu. Et je témoignais lors de la préparation au baptême, j'avais lu un témoignage d'une personne. On lui avait dit d'aller voir telle personne parce qu'elle avait vraiment une onction de guérison et de miracle. Et cette personne, quand elle a sonné à la porte et qu'elle a vu la personne lui ouvrir, elle s'est dit, c'est sûrement pas lui. Parce que nous avons des préjugés. Parce que nous croyons qu'il faut rentrer dans les cases. Dieu ne rentre pas dans nos cases. Et en fait, cet homme, c'était un homme qui était rabougri, qui était tout tordu. Et pourtant, cet homme a prié pour lui et il est parti de là en étant guéri. En fait, on peut ou aller plus loin avec Jésus, ou on peut rester là où on en est. Le désir de Dieu, c'est que nous allions jusque là où il a prévu que nous allions. Parce que là est la bénédiction de Dieu. Un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Luc 24, 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et c'est pour ça, il fallait que Jésus passe par la mort. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Pour l'éternité. Pas pour un temps. Pour l'éternité. Il est vivant. Et ce Dieu-là veut te donner sa vie. Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il a fallu la mort pour que la parole de Dieu et les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs paroles que Jésus a dites à la croix et dont on parle encore aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors que Jésus savait très bien ce qui allait arriver. Mais il fallait aussi que Jésus dise Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et si Jésus a dit, Père, pardonne-leur, je pense que Jésus nous invite à pardonner. Et c'est peut-être un jour particulier, même si, honnêtement, je pense que l'on devrait vivre ça au quotidien. Le pardon et peut-être quelque chose à renouveler aujourd'hui dans ta vie. Peut-être que tu en veux à quelqu'un. Sache que le fait que tu en veuilles à cette personne, tu bloques Dieu pour ta délivrance et ta guérison. Et je sais, il y a certaines choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et pourtant, c'est la réalité, c'est la vérité. Puisque Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous échappons à ce que Dieu a dit. Jésus a dit à un des brigands, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et en préparant le message, je me disais, mais Jésus est sur la croix, il est en train d'agoniser et il se préoccupe du brillant qui est à côté de lui. Quel amour! Quel amour! Et puis il y a aussi cette parole où Jésus a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et oui, à un moment donné, Dieu s'est retiré parce qu'il ne pouvait pas voir le péché qui était sur son fils. Le temps où Jésus a porté le péché de l'humanité, mon péché, ton péché. La puissance de la résurrection, la puissance de la vie qui est en Christ, la puissance de la vie qui est dans le Saint-Esprit, la puissance de la vie qui habite en chaque enfant de Dieu. Cette puissance ne demande qu'à être libérée. Et cette puissance pourrait être libérée grâce à certaines conditions dont je vous en ai parlé, en tout cas d'une, c'est du pardon. Mais il y en a parfois d'autres. Et je vous en ai parlé d'une deuxième, c'est l'incrédulité. Mais il y en a peut-être d'autres dans votre vie. Aujourd'hui est un jour de résurrection, que vous puissiez entrer dans les projets de Dieu complètement. Je crois que c'est Dominique qui a préparé la Sainte Cène. Merci Dominique. Avec Rita, merci Rita. Et Rachel, merci Rachel. Merci à tous ceux qui ont préparé le repas. Et avant de prendre ce repas, je ne pouvais pas, en ce jour de Pâques, vous parler de 1 Corinthiens 11, 17 à 32. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je veux juste vous dire que quand même, dans ce passage, l'apôtre Paul parle de division. Et puis, au verset 22, il dit: méprisez-vous l'Église de Dieu, faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Et quand j'ai lu ce passage, pourquoi j'ai été interpellé par ces deux choses? La première, oui, la deuxième, je ne sais pas, honnêtement. Mais peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que Dieu puisse vous parler. Que Dieu puisse vous parler pour que vous reveniez dans le droit chemin avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit: car j'ai reçu du Seigneur, en tout cas, je vous encourage cette semaine à aller relire ce passage de 1 Corinthiens 11, 17 à 32. Et à partir du verset 23, il dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Afin de vous remémorer. Ce n'est pas que quand on prend la Sainte-Cène ensemble, mais à chaque repas que vous faites, rappelez-vous que Jésus revient. Rappelez-vous de ce que Jésus a fait. Et c'est là où je disais, il y a des choses parfois qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Mais en préparant ce message, je ne pouvais pas passer au-dessus de ça. Et je pense que ça peut être vraiment des freins et des empêchements de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi celui qui mange le pain, qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, je veux juste qu'on puisse s'arrêter 2 minutes, que vous puissiez peut-être fermer les yeux et revoir par rapport à ce texte où vous en êtes. Est-ce que ce matin, vous allez prendre la Sainte Seine en étant dans la paix de Dieu, ou est-ce que vous allez le prendre et ça va amener un jugement sur vous? Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous sommes un obstacle à ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, tu nous connais, tu connais nos faiblesses, tu connais nos qualités, tu connais nos forces. Tu ne nous demandes pas à faire des exploits. C'est toi qui les fais au travers de nous. Mais tu nous demandes d'être vrais dans ce que nous vivons, que nous ne nous illusionnons pas nous-mêmes. Et Seigneur, je prie que tu mettes en lumière, parce que ce que tu veux, c'est que chacun puisse manger du pain et boire de la coupe. Seigneur, je prie afin que chacun nous puissions régler nos vies. Parce que quand nous prenons la Sainte-Seine, ce n'est pas banal en soi du tout. Mais ça nous responsabilise. Et puis, au verset 30, il dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. » Et qu'un grand nombre sont morts. Et je pense qu'il y a vraiment des passages dans la parole de Dieu sur lesquels il faut s'arrêter, et on ne peut pas juste les lire. L'apôtre Paul nous dit que si nous prenons la coupe indignement, nous amenons un jugement sur nos vies, et ça peut nous amener des infirmités, des maladies, et même la mort. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il y a des passages dans la parole de Dieu où il nous parle du fait de juger les autres. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger? Seul Dieu peut le faire. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Parce que nous avons cette tendance. Et cette tendance fait partie de notre nature pécheresse et nous devons l'éliminer de nos vies. Je relis ce verset et encore une fois, ce n'est pas du tout comme une condamnation. Mais c'est pour que le peuple de Dieu puisse se rendre compte que nous vivons peut-être des situations de maladie, d'infirmité ou même de mort qui ne sont pas dues au diable mais qui sont dues parce que nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu ne nous châtie pas pour nous châtier, pour nous faire du tort. Si Dieu nous châtie, c'est pour nous ramener sur le droit chemin, parce qu'en fait, le désir de Dieu, c'est que nous soyons des témoins de son amour, de sa grâce et de sa gloire. Et lors de la préparation au baptême, quelqu'un me disait, ouais, j'ai écouté un prédicateur qui disait que les pasteurs qui volaient dans les caisses de l'église, allait aller en enfer. Cet homme avait eu, je pense, une vision ou un songe. Et la personne, quand elle l'a entendu, elle a dit, ouais, c'est quand même fort. Et en fait, je lui disais, oui, c'est fort, mais quand nous revenons à l'écriture, la Bible dit, dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et en ce jour-là, certains me diront, mais n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et je suis pour les dons à 100%. Mais je ne suis pas pour les dons n'importe comment. Les dons peuvent faire des dégâts, surtout dans la vie des gens qui les exercent, si les personnes ne laissent pas leur caractère être transformé. N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et donc, quand cette personne partageait ça et que je ramenais les choses à la parole de Dieu, du coup, elle disait, waouh. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, le thème était sur la sanctification. Mais en même temps, c'est ce que nous devrions vivre au jour le jour. Mais pas comme une épée de Damoclès qui est sur notre tête, mais comme justement le fait de savoir que parce que je vais entrer dans la sanctification avec Dieu, je vais être une bénédiction pour les autres. Oui, je vais peut-être abandonner des choses, mais Dieu va manifester sa grâce et sa gloire au travers de vos vies. Donc voilà en ce message de Pâques. J'espère ne pas vous avoir refroidi, mais je pense que autant je pense que Dieu est un Dieu qui aime la vie parce qu'il est la vie et qu'il aime qu'on passe du bon temps, etc. Autant Dieu est un Dieu sérieux. Et Dieu peut faire l'un et l'autre, et nous pouvons faire l'un et l'autre. Mais soyons sérieux dans les choses de Dieu. Et oui, amusons-nous, mais amusons-nous correctement aussi. Alors, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas régler, parce que peut-être vous en voulez à quelqu'un, et que vous ne pouvez pas le régler là, parce que la personne n'est pas là, engagez-vous devant le Seigneur à régler ces situations. Et ne vous privez pas de prendre la Sainte-Seine. Et si vous n'êtes pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu, je vous conseille de ne pas prendre la Sainte-Seine. N'attirez pas sur vous un jugement inutile. Réglez vos vies. Mais ne vous privez pas de prendre la Sainte-Seine. Parce que je crois qu'il y a, au travers de la Sainte-Seine, une puissance de délivrance et de guérison. Autant, si nous la prenons indignement, ça peut amener la condamnation sur nos vies. Autant, quand nous sommes dans les projets de Dieu, ça peut nous amener là où les délivrances et là où les guérisons. Donc, que tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, qu'ils reconnaissent Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, eh bien, se lèvent pour prendre la Sainte-Seine. Seigneur, je te remets ce temps qui, pour moi, est tellement sérieux, et en même temps, Seigneur, tu ne nous condamnes pas. Tu veux nous faire sortir de nos ornières, tu veux nous faire sortir des chemins dans lesquels nous sommes, où nous pensons avoir raison. Toi, tu avais raison, Jésus. Tu étais parfait. Et toi, tu as été crucifié. Afin que nous entrions par ce chemin, même si ça nous paraît difficile pour certaines situations, ce que tu attends de nous, c'est que nous entrions complètement dans tes projets, afin que ton nom soit glorifié, afin que ta gloire soit manifestée, et afin que ta grâce coule au milieu de nous. Seigneur, je prie qu'alors que mes frères et sœurs prennent les éléments, que ton esprit vienne libérer, délivrer et guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, toujours est-il que vraiment je vous encourage cette semaine à vous repositionner devant Dieu, mais pas peut-être comme la manière dont vous avez l'habitude de le faire, de venir et quelque part revendiquer des choses, mais vraiment dans cette attitude de cœur de dire « Seigneur, moi je pense que c'est bien, que ça va dans ma vie ». Et comme le disait le psalmiste, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Renouvelle en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Parce que ça nous amène la vie. Ça nous amène la vie que Dieu a prévu de nous donner. Je vous souhaite à tous un bon dimanche dans la grâce, dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous garde durant toute cette semaine. Et puis que vous passiez une semaine où ça va encore peut-être chambouler vos vies, mais c'est que pour du bon. Soyez bénis.